Chapitre 7. Pour cacher leur jeu. Ils étaient dans la spacieuse salle à manger de l'hôtel Brighton. Maud et Frank étaient assis à leur petite table ronde, leur table favorite près de la fenêtre, où ils lunchaient toujours. Ils avaient directement sous les yeux une nappe blanche comme la neige, avec, comme brillante entrée, un plat de prétentieuses petites côtelettes, dont chacune était ornée d'une collerette en papier, et, tout autour, un banc de pommes de terre en purée. Au-delà, au pied même de la fenêtre, à ce qu'il semblait, s'étendait l'immense surface de la mer bleu foncé. Cette masse d'une nuance reposante n'était interrompue que par de rares voiles inclinées aux dernières limites de l'horizon. Tout au long de la ligne du ciel, les blancs nuages s'empilaient en cumulus, jetés à l'aventure comme de la neige entassée après un balayage. C'était plein de paix, de beauté, cette perspective lointaine, mais pour le moment, celle qui leur offrait le plus d'intérêt, c'était la perspective qu'ils avaient tout près d'eux. Bien qu'ils doivent dès ce moment perdre la sympathie de tout lecteur sentimental, il faut dire, conformément à la vérité, qu'ils prenaient grand plaisir à leur déjeuner. Avec le don merveilleux d'adaptation propre aux femmes, faculté héréditaire qui s'explique par le fait que, dès l'origine des temps, le sexe a été habitué à tirer le meilleur parti possible de situations qu'il n'avait point choisies, Maud remplissait avec aisance, avec grâce, son rôle nouveau. En sa coquette toilette de serge bleu et son chapeau matelot, avec la teinte chaude du soleil de la veille sur ses joues, elle était l'image même de la femme heureuse, bien portante. Frank portait aussi un costume de serge bleu, tout à fait de circonstance, attendu qu'ils passaient une grande partie de leur temps sur l'eau, et il n'y avait qu'à regarder leurs mains pour en être convaincu. Par malheur, le sujet de leur entretien se maintenait à un niveau bien inférieur à ce que nous avons surpris en dernier lieu. J'ai gagné un de ces appétits.
Et moi aussi, Frank.
Fameux. Une autre côtelette?
Merci, chérie.
Des pommes de terre?
Oui, je vous prie.
Je m'étais toujours figuré que les gens vivaient d'amour pendant leur lune de miel.
Oui, n'est-ce pas terrible, Frank? Il nous faut être si matériels.
Bonne vieille mère nature, tenez-vous toujours pendu à ses jupes et vous ne vous égarerez jamais. Il faut avoir une bonne base physique, la santé, pour éprouver de saines émotions spirituelles. Voulez-vous me faire passer les cornichons?
Est-ce que vous êtes heureux, Frank?
Absolument, complètement.
C'est bien, bien sûr.
Jamais chose ne fut aussi sûre pour moi.
Oh, Frank, en ce moment, je flotte sur des nuages dorés dans un rêve. Mais vos pauvres mains, oh, comme elles doivent vous faire mal!
Pas du tout.
Cette rame était si lourde.
Je n'ai pas l'occasion de m'exercer à ramer. Il n'y a aucun endroit pour cela à Woking, à moins de le faire sur le canal. Mais cela valait une ou deux ampoules. Crébleu, n'est-ce pas que c'était splendide, ce retour sous la nouvelle lune, dans ce sillage d'argent qui scintillait dans l'eau devant nous? Nous étions si entièrement seuls. Nous aurions pu nous croire dans les espaces interstellaires, vous et moi, faisant le voyage de Sirius à Arcturus, dans un de ces immenses abîmes de vide dont parle Hardy. C'était accablant.
Je ne l'oublierai jamais.
Y retournons-nous ce soir?
Mais les ampoules!
Au diable les ampoules! Nous en porterons un peu d'appât et nous tâcherons de prendre quelque chose.
Ce sera bien amusant.
Et dans l'après-midi, nous irons en voiture à Rottingdean si vous vous sentez disposé. Prenez cette dernière côtelette, ma chérie.
Non, merci.
Ah, c'est dommage de la laisser perdre. La voilà casée. À propos, Maud, il faut que je vous parle très sévèrement. Ça me sera impossible si vous me regardez ainsi. Mais réellement, plaisanterie à part, il faut vous surveiller davantage devant les garçons.
Pourquoi, mon chéri?
Eh bien, tout a marché superbement jusqu'à présent. Personne ne nous a soupçonnés encore et personne ne nous soupçonnera si nous sommes raisonnablement attentifs. Le gros garçon est convaincu que nous sommes des vétérans, mais au dernier dîner, vous avez failli dévoiler le pot aux roses.
Vraiment, Frank? ne prenez pas cet air confus qui vous va si bien, ma charmante. Le fait est que vous feriez piteusement votre rôle dans une conspiration. Moi, au contraire, j'ai pour cela une sorte de talent, ainsi que du reste, pour maintes autres choses coupables, en sorte que la chose ne court pas grand risque entre mes mains. Vous, vous êtes naturellement aussi droite qu'une règle, et vous ne pourriez être tortue quand vous le voudriez. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Oh, que j'en suis fâchée ! J'ai fait mon possible pour être attentive. Oui, c'était à propos du curry, vous savez. Vous avez commis une erreur d'appréciation en me demandant si je prenais du chenille. Et ensuite ?
Quoi encore ?
Au sujet des bottines, est-ce que je les ai achetées à Londres ou à Woking ?
Oh, mon chéri, mon chéri !
Et encore ?
Encore autre chose, mon Franck.
Eh bien, c'est l'emploi du mot « mon ». Il faut y renoncer, le remplacer par « notre ».
Je sais, je sais. C'est quand j'ai dit que l'eau de mer avait défrisé la plume de mon... de notre... enfin, du chapeau.
Cela, c'était très bien, mais il y a nos bagages, vous savez, notre chambre, et ainsi de suite.
Naturellement, c'est cela. Que je suis sotte. Alors le garçon sait... Oh, Franck, que faire ?
Lui, non, il ne sait rien, j'en suis sûr. C'est une espèce d'imbécile. J'ai eu les yeux sur lui tout le temps. En outre, j'ai jeté quelques remarques, exprès pour corriger les faits.
C'était quand vous avez parlé de nos voyages dans le Tyrol ?
Oui.
Oh, Franck, comment avez-vous pu ? Et vous disiez que nous nous sentions bien seuls quand nous étions les uniques habitants de l'hôtel suisse.
C'était une inspiration, ça leur a donné le coup de grâce.
Et au sujet de l'air enfermé dans les salons de l'Atlantique, je rougissais en vous entendant.
Mais il n'en a pas perdu un mot, je m'en suis aperçue.
Je me demande s'il le croyait réellement. J'ai remarqué que les bonnes et les garçons ont l'air de nous regarder avec un certain intérêt.
Ma chère petite, à mesure que vous avancerez dans la vie, vous remarquerez que tous les hommes vous regardent avec un certain intérêt.
Maud sourit, mais sans conviction.
Du fromage, ma chérie.
Un peu de beurre, s'il vous plaît.
Un peu de beurre, garçon, et le Silton. Vous savez, la vérité est que nous commettons l'erreur de nous montrer un peu trop gentils l'un pour l'autre en public. Les vétérans n'agissent point ainsi. Ils tiennent les petits soins pour accorder, ce qui est tout à fait mal, mais cela prouve qu'ils sont des vétérans. C'est de ce côté-là que nous nous oublions.
Cette idée ne m'est jamais venue.
Si vous voulez en finir une bonne fois avec ce garçon et faire disparaître de son esprit jusqu'à l'ombre d'un doute, le meilleur moyen est de me parler avec quelque brusquerie.
Ou vous à moi, Franck.
Vous ne le prendrez pas mal, bien sûr.
Pas du tout.
Ah, tant pis, je ne peux pas, même pour un si bon motif.
Eh bien alors, ni moi non plus.
Mais c'est absurde, il ne s'agit que d'une comédie.
Oui, c'est cela, ce n'est que pour rire.
Alors, pourquoi ne vous en chargez-vous pas ?
Et pourquoi ?
Il sera de retour avant que nous nous mettions d'accord. Tenez, il y a un shilling sous ma main. Pile ou face, c'est le perdant qui devra être impoli.
Cela va ?
Très bien.
Vous dites ?
Face. C'est pile.
Oh, grand Dieu !
C'est à vous à parler brusquement et tâchez de vous en tirer. Le voici. Le garçon était rentré dans la salle, apportant la merveille dont l'hôtel se faisait gloire, le grand Stilton vert, avec sa chair d'une belle nuance feuille morte, se perdant peu à peu dans les cavités d'une teinte prune. Il le déposa sur la table d'un air solennel.
Maud fit un effort désespéré pour être brusque. « Eh bien, cher, je ne le trouve pas si beau que cela. »
Tel fut le résultat de tout cet effort. Ce n'était pas grand-chose, mais cela produisit un effet surprenant sur le garçon. Il fit demi-tour et partit à grands pas.
« Eh bien, voilà, vous l'avez scandalisé !» s'écria Franck. « Où est-il allé, Franck ?»«
Se plaindre de ce que vous avez parlé sans ménagement. »
« Non, Franck, dites-le-moi, je vous prie.
Oh, je voudrais n'avoir pas été aussi rude. Le voici de retour. »
Une sorte de cortège défilait dans le vestibule. En tête marchait le gros garçon avec une assiette à fromage couverte. Derrière lui, un autre emportait deux plus petites et l'arrière-garde était formée par un troisième qui portait une sorte de poudre jaune sur un plat.
« Voici le gorgonzola, madame, » dit le garçon d'un ton sévère, « et voici derrière moi le camembert et le gruyère, ainsi que du parmesan râpé. Je suis désolé que le Stilton n'ait pas plu. »
Maud prit du gorgonzola d'un air très coupable, très malheureux. Franck se mit à rire.
« J'entendais que vous fussiez brusque avec moi et non pas avec le fromage, » dit-il quand le cortège fut reparti.
« J'ai fait de mon mieux, Franck. Je vous ai contredit. »
Oh, c'était une scandaleuse manifestation de caractère.
Et j'ai blessé ce pauvre garçon dans ses sentiments.
Oh, il vous faudra faire des excuses à son Stilton avant qu'il vous pardonne.
Et je ne le crois pas non plus convaincu qu'avant que nous sommes des vétérans.
Très bien, ma chère, laissez-moi faire. Ces souvenirs que j'ai évoqués doivent l'avoir tranquillisé. S'ils n'ont point atteint leur but, alors je crois que c'est à y renoncer. »
Il n'en valut que mieux, pour la paix de l'esprit de Franck, de n'avoir point entendu la conversation entre le gros garçon et leur femme de chambre, pour laquelle il entretenait une affection débordante. Ils avaient une demi-heure de loisir dans l'après-midi et ils échangèrent leurs impressions.
« Un gentil couple, n'est-ce pas, John ?» dit la bonne d'un air entendu.
« Je ne sais pas si nous en avons eu un meilleur depuis les mariages du printemps. »
« Je ne sais pas trop si j'irai jusque-là, » dit le gros garçon d'un ton critique. « Lui, il passerait. Il est très bien. C'est un jeune homme qui marque bien, qui a de l'entrain. »
« Et elle, qu'est-ce qu'il y a de mal, alors ?»«
Ça, c'est une affaire d'opinion, » dit le garçon. « J'aimerais qu'il soit un peu plus avancé, plus au goût. Quant à elle, si vous l'aviez vu lever le nez en voyant le Stilton au lunch... »
« Levez le nez, dites-vous. Eh bien, elle m'a fait l'effet d'une jeune dame qui vous parle bien doucement, qui est très obligeante. »
« Elle l'est peut-être, mais ça fait un drôle de couple, je vous le dis. Ils ont bien fait de se marier après les violons.
Pourquoi ?»«
Pourquoi ?»« Parce qu'ils ont fait preuve d'un toupet jusque-là. Je le tiens de même et ça m'a fait bel et bien rougir de l'entendre. Terrible, c'était terrible. »
« Vous n'allez pas dire ça, John ?»«
Je vous le dis, Jane, j'en croyais à peine mes oreilles. Ils se sont mariés mardi dernier, comme nous le savons bien, et nous en avons la preuve dans le Times d'aujourd'hui, et pourtant, à les en croire, ils parlent comme s'ils avaient voyagé seuls à l'étranger. »«
Jamais, John !»«
Et seuls dans un hôtel suisse. »«
Grand Dieu ! Et en bateau à vapeur aussi. »
« Eh bien, alors, je ne me fierai jamais plus à personne. »«
Oui, c'est un couple de farceurs parfaitement, mais je leur ferai voir que je le sais. Ce soir, à dîner, je mettrai ce Times devant lui, aussi sûr que je m'appelle John. »«
Et ça sera pour eux une bonne leçon aussi. Si vous n'aviez pas dit que vous l'avez entendu de leur propre bouche, John, je ne l'aurais jamais cru. C'est des choses comme ça qui ébranlent votre confiance dans la nature humaine. »
Maud et Franck s'attardaient à la table d'hôte, à manger leurs noisettes et à siroter un verre de porto, quand le garçon se glissa sans bruit derrière eux.
« Demande pardon, monsieur, mais avez-vous vu ça dans le Times ?»«
Vu quoi ?»«
Ça, monsieur, j'ai pensé que ça vous intéresserait, ainsi que votre brave dame, de voir ça. »
Et il mit devant eux une page du journal en posant son index sur un entrefilet en haut de la colonne de gauche, dans le coin. Puis il se retira discrètement.
Franck y jeta les yeux et fut horrifié.
« Maud, votre famille est allée y mettre ça. »«
Notre mariage ?»«
Ça y est, écoutez. Cross et Selby, 30 juin, à l'église de Sainte-Monique. Officiant, le révérend John Tudwell, maître S.A., curé de Sainte-Monique. » Franck Coase, de Maybury Road, à Woking, avec Maud Selby, fille aînée de Robert Selby, Esquire, à Saint-Alban.
Diable, Maud, qu'allons-nous faire ?
Eh, mon cher, qu'est-ce que ça fait ?
Ce que ça fait, c'est tout bonnement affreux.
Je ne me mets pas beaucoup en peine qu'on le sache.
et mes souvenirs de voyage, Maud, les voyages dans le Tyrol, et l'hôtel suisse, le salon. Grand Dieu, comment ai-je pu y mettre le pied ? Maud éclata de rire. Mon cher vieux, je ne vous crois guère meilleur conspirateur que moi. Il n'y a qu'une chose que vous puissiez faire, mettez une demi-couronne dans la main du garçon. Dites-lui la vérité et ne conspirez plus. Ainsi finit honteusement la tentative qu'ont faite bien d'autres et dans laquelle bien d'autres ont échoué. Faites-en votre profit, bon lecteur, et vous aussi, charmante lectrice, quand votre tour viendra.